affabulé.
C'est ça. Affabulé. Affabulé.
Deux F.
わかりますよ、ジャンヌ.
Sounds like they were very happy.
Yes, they were.
もうどれぐらいこの列車に乗っているのか忘れてしまった。
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, d'étoiles plein les yeux, c'est votre magazine de cinéma sur Transistor et on se retrouve cette semaine avec un petit peu de retard qui nous pousse même à enregistrer cette émission in extremis depuis un hall de cinéma. Hall de cinéma, on en parlera donc aujourd'hui d'Amanda, un film que sort Michael Hirst et puis on continuera bien sûr avec un coup de projecteur. Bonsoir Ellie, sur quoi il est ce coup de projecteur cette semaine?
Alors il est sur un film documentaire qui s'appelle L'enfance d'un maître et qui est réalisé par Bruno Vienne et Jeanne Masco de Philippis.
On en saura plus donc en deuxième partie de l'émission et la toile cette semaine. C'est donc Amanda, les yeux ce sont ceux de Ellie, Mathilde et Maë. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Je veux voir maman.
Comment c'est possible une chose pareille?
Je sais pas ce qu'on va devenir tous les deux. J'ai tellement peur là. Je...
Juridiquement, vous pourriez être son tuteur.
Je m'étais jamais imaginé que je devrais m'occuper de ma nièce un jour.
Brosse à dents de maman. T'es pas chez toi ici. C'est pas toi qui décides pour les brosses.
Amanda, c'est le nom donc de la nièce du personnage joué par Vincent Lacoste, un certain David qui, à 24 ans, voit sa sœur décédée, se retrouve donc à devoir élever sa nièce, cette fameuse Amanda. C'est un garçon qui est un petit peu paumé où ces choses-là, au moment où ces choses-là lui arrivent, et qui se retrouve donc à construire une relation avec cette fillette. C'est autour de cette relation que se construit le film. Alors j'en dis pas plus, n'ayant pas pu le voir moi-même, je me tourne vers vous peut-être pour connaître votre avis donc, et puis peut-être un résumé un poil plus fourni que celui que je vous donne tout de suite. Il me semble que la parole est à toi, Ellie.
Mais oui, alors tu l'as bien résumé en fait, parce que c'est pas un film qui multiplie, on va dire, les événements. C'est, le récit est plutôt sec, il est plutôt lisse, il se passe pas grand-chose. Et comme tu dis, David, qu'on suit plus finalement que Amanda en elle-même, David est plus au centre de l'histoire, c'est plus lui qui mène le récit. Et bah, il est toujours paumé, il est toujours à côté de ses pompes, et il est touchant par ce côté-là, parce qu'effectivement. J'ai envie de dire que le film aurait tout pour se faire détester, mais disons que voilà, un drame sentimental avec sur une histoire de deuil et compagnie, avec des moments lyriques, des moments formels un petit peu assumés de purs sentiments, des fois de purs sentiments naïfs. Ça pourrait très vite partir dans le décor, quoi. Et là, pour le coup, j'ai trouvé qu'il y avait, je sais pas, une sorte de tremblement dans le traitement des personnages. D'abord, c'est un film qui croit à ses personnages, et ça déjà, qui croit profondément et qui les trahit jamais, qui se moque pas d'eux et qui les pousse même à entrer dans des situations qu'on peut juger des fois irréalistes. Par exemple, dès le début, on a cette scène de la mère, donc la mère d'Amanda qui est pas encore décédée, où elle danse comme ça sur du Elvis Presley, ça sort de nulle part. On se dit mais c'est pas assez, personne ne fait ça dans la vie, personne. Mais on y croit et ça construit un pacte de croyance qui pour moi s'est jamais rompu tout au long de l'histoire.
Mathilde, tu y as cru toi?
Oui, moi je suis assez d'accord, c'est pas le genre de film a priori qui m'intéresse beaucoup ou qui me touche beaucoup, mais là pour le coup il m'a assez convaincue. Bon, ça repose pas mal sur la performance de Lacoste, qui, même si je suis convaincue de base, est excellent dans ce film-là, et c'est pas évident. Et un film qui met au centre quand même un peu les attentats et le climat un peu actuel est difficilement juste, et celui-ci j'ai trouvé quand même qui visait plutôt juste à chaque fois, et même les moments de franc désarroi de Lacoste sont filmés et sont mis en scène de façon vraiment à nous faire croire aux situations, sans tomber non plus dans le misérabilisme ou quoi. Enfin, ils ont quand même recréé un climat post attentat et vraiment un climat de deuil après l'événement qui quand même a, ouais, qui m'a laissé un peu, enfin en tout cas qui m'a rappelé le vide un peu abasourdi qu'il y avait dans Paris après les attentats, sans que ce soit absolument plombant non plus. Enfin, il a visé une justesse qui me semble quand même assez rare, enfin sur un film qui traite à ce point-là des attentats et de la manière dont on les envisage après. Voilà.
La justesse, Maë, pour toi aussi?
Aussi. non, 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 absolument pas. Moi, c'est justement, j'ai bien vu, enfin, tu vois, tout ce que tu disais, Ellie, sur le fait que, et là, j'ai perdu ce que tu disais, mais en gros, tu dis que, que ça pourrait devenir trop, mais qu'on n'y croit pas, mais en fait, finalement, tu y crois, par exemple, à la scène où, pardon, je m'avance un peu, à la scène où elle danse, par exemple. Moi, c'est l'inverse, en fait, j'y ai jamais cru. Depuis le début, je ne suis pas entrée dedans, je n'y croyais pas, et j'ai trouvé ce film, en fait, incroyablement grossier. J'ai trouvé que tout était grossier, des personnages jusqu'aux scènes, jusqu'à l'histoire. J'ai trouvé que tout était filmé avec une naïveté. Enfin, franchement, Amanda, la gamine naïve qui est filmée avec un regard qu'on a sur, voilà, c'est une gamine de 7 ans, elle est blonde, elle a les yeux bleus, oh, qu'elle est jolie, oh, qu'elle est triste, c'est trop triste. Ah, moi, j'ai trouvé ça grossier, vraiment. Je sais, j'ai pas d'autres mots pour le décrire, mais enfin, peut-être que j'ai pas en tête, l'atmosphère de Paris post-attentat. J'ai un peu en tête l'atmosphère générale post-attentat, mais j'ai trouvé que même ça, c'était grossier, en fait, dans le film. Bah oui, ça y est, on sait qu'elle est morte pendant un attentat. Et du coup, ça y est, on est forcé d'y croire parce qu'on est forcé, enfin, c'est peut-être pas hyper politiquement correct ce que je dis, mais on est forcé d'y croire parce que, ah oui, là, on parle des attentats, ça y est, on touche plus au film, on touche plus au personnage parce que, bah oui, les pauvres, c'est vrai, c'est terrible. Mais en fait, moi, je trouve que ça vient comme un cheveu sur la soupe, ces attentats. Je sens le micro qui m'agresse.
Alors justement, effectivement, ce film, il se place dans un cadre qui est effectivement celui des attentats. Et de fait, tu le disais, Mathilde, il y a forcément une attention, que la démarche soit réussie ou pas, à restituer une certaine ambiance, à peut-être tenter de ne pas verser dans cette grossièreté que malgré tout tu sembles déceler, Maë. Ce sujet, comment est-ce que le film le prend à bras le corps, comment il le traite?
Si je peux rebondir un peu sur ce qu'on a dit, oui, comment il le traite? Et ben justement, il le traite de profil, je trouve. Il le traite de par des chemins de traverse. Il l'affronte pas directement. Le moment à proprement parler du massacre, en fait, dans le film, il existe pas. C'est que le personnage le découvre au détour d'un plan. Puis on voit une série de focalisation sur des corps au sol, morts, ensanglantés. Bon, et après, le film, c'est autre chose. C'est ce qui se passe après et comment réparer ça. Enfin, ça m'a plus fait penser à tout ce qui se fait maintenant, alors, dans les pensées, la recherche en psychologie, en littérature, je sais pas, en sciences sociales peut-être, vous le savez plus que moi, mais autour de ce qu'on appelle le care, c'est-à-dire les formes artistiques, l'art qui se pense comme réparation du vivant. Et enfin, c'est pour ça que pour moi, il y a une vraie dimension nécessaire et salutaire dans le film, au sens où c'est vraiment ce genre de film-là que j'ai envie de voir pour parler de ce genre d'événement-là. Aujourd'hui, c'est pas un film qui me plongerait au cœur de l'action et enfin qui me plongerait dans l'horreur de ce que c'est. Il y a un sentiment d'horreur quand même. Il y a un sentiment de vide profond que même moi j'avais ressenti, même si j'étais pas à Paris, j'avais eu un moment de bouleversement quand même pendant une journée et même plus, enfin, et je trouve que ça va le chercher là, ça va le chercher dans ces à côté là.
Une espèce de d'anti-nocturama qui serait réparateur du coup.
Nocturama, c'est autre chose.
Et moi, j'ai trouvé justement que ça marchait pas. Il nous montre un deuil comme on nous a toujours montré un deuil dans un cinéma un peu comme ça, bateau, où voilà, bah oui, on a le grand frère, l'oncle qui va prendre en charge la nièce. Ah bah oui, c'est triste parce que lui, il est trop jeune et du coup, il sait pas comment s'en occuper. Alors certes, les acteurs jouent plutôt bien, ils pleurent bien surtout. Enfin, on y croit quand ils pleurent. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est le point positif du film, très honnêtement. Mais à part ça, je trouve que le traitement psychologique de l'histoire du deuil, parce qu'effectivement c'est plus l'histoire d'un deuil que l'histoire des attentats, et ben je le trouve grossier. Encore une fois, je trouve que c'est tout est surfait, on s'y attend. Tout le début partie du film sert à nous attacher à la maman d'Amanda, d'où la scène ultra joyeuse de elle danse dans la cuisine, et c'est génial parce que on voit que quand même la mère et la fille ont une relation absolument géniale, et que quelle joie, quel feu follet vivant cette madame, et c'est elle qui va mourir, tiens, comme par hasard, le personnage qu'on aime le plus, hein. Et je parle même pas de la métaphore finale. Je parle même pas de la métaphore finale qui, pour moi, est, bah oui, encore, c'est des grosses ficelles, quoi. Y a rien de fin et de délicat, je trouve.
En fait, je pense que c'est vraiment tout l'un ou tout l'autre. Et généralement, quand je vois des films un peu dans ce genre-là, je suis exactement de ton point de vue. Mais il se distingue quand même, celui-ci, par une efficacité tout le long. Enfin, moi, j'ai adhéré à un truc qui, a priori, me fait pas du tout adhérer. Enfin, qui me plaît pas du tout. Donc, oui, le risque, c'est qu'on sorte avec ton point de vue. Mais d'un autre côté, je trouve que, globalement, non, il y a une ambiance et puis effectivement non, je suis pas du tout d'accord sur le traitement psychologique des personnages. Enfin, Lacoste, il est quand même hyper subtil. Amanda, bon, au début j'étais un peu réticente aussi, puis vers la fin elle se dévoile un peu aussi. Non, enfin, je trouve malgré tout qu'il y a une ambiance qui reste, et même dans son économie vraiment des situations. Effectivement, il y a pas grand chose qui se passe, mais il y a quelque chose qui plane un peu dans tout le film et qui m'a assez convaincue, ouais.
Et les dialogues, vous en pensez quoi, très honnêtement ?
Alors, les dialogues, et puis aussi, puisque c'est quand même quelque chose dont vous avez parlé à plusieurs reprises, peut-être les personnages, finalement, c'est peut-être aussi, enfin, les personnages, je veux dire, les acteurs, qui est peut-être ce qui finalement vous met d'accord là-dessus.
Les acteurs sont bons, mais les dialogues ?
Non. Alors, moi, je trouve que les acteurs sont pas particulièrement bons, que les dialogues sont pas particulièrement justes.
Bah, mettez-vous d'accord.
Justement, non, mais. C'est, après, on a une réception, voilà, chacun reçoit le film, mais. Ce que tu disais, et de la grossièreté et tout, je vois ce que tu pointes dans le film, parce que c'est vrai qu'il se permet tout le temps des choses, il se permet des parenthèses de, voilà, petite musique un petit peu douce, de transition, il fait des effets des fois d'image hyper osés. Le téléphone, c'est ça, il téléphone à une amie qui a été blessée pendant l'attaque, et il y a un fondu. Un fondu avec des images de villes nocturnes pendant qu'ils sont au téléphone. Pareil, il lit une lettre à un moment donné, et on a la voix off du personnage qui a écrit la lettre pendant qu'il, enfin, des procédés hyper moi je trouve que c'est osé et que c'est très libre de les utiliser, parce que ça m'a fait ressentir, justement, j'aurais pas pu être au premier degré dans ce film là tu vois, on attend souvent de ce genre de film qu'il soit juste, c'est ça, on dit, hein, c'est bien traité, l'histoire est juste. Et moi, justement, c'est la fausseté, en fait, qui revenait par bout, et en même temps insuffisamment présente pour que je m'attache quand même et que je croie quand même au personnage, qui m'a touché, parce que le fait de pas totalement faire adhérer la forme des images, du récit, au vécu des personnages qui, de toute façon, et pas, enfin, la psychologie, on peut pas retransmettre ça de toute façon, donc autant assumer des libertés de forme et de dialogue aussi, enfin, voilà.
Je pose la question, ça y est, moi. Et tu trouves pas que la forme, du coup, trahit les personnages et la justesse de peut-être de ce qu'ils sont en train de vivre, de la réduire à justement cette forme qui réduit ça à un truc, je suis pas nul.
Dernière réplique, Ellie.
Non, moi je trouve que ça les trahit pas. Je trouve que tous leurs choix sont prolongés par la mise en scène, et la fausseté, elle s'intègre là-dedans. Elle joue pas à leur encontre. Bon, mais c'est peut-être parce que j'ai trop de compassion, ou je sais pas. Enfin, en tout cas, je me suis beaucoup identifié, notamment à Lacoste qui est formidable.
Et Mathilde a l'air d'acquiescer. Bon, juste pour vérifier, est-ce qu'on le conseille, ce film ?
Ah bah oui, moi, très, très chaudement.
Oui, oui, plutôt.
Non.
Ok, merci beaucoup à tous les trois. Ça s'appelle donc Amanda, c'est signé Michael Herz, encore en salle à Lyon pour quelques temps, y compris chez nos amis des Cinémas Lumière. Et on se retrouve après une petite virgule, cette fois-ci en studio.
Previous Kala Rinpoche, he said that, and right now I'm an old man, but when I come back, I will have a personality of the tiger.
Il avait à peine deux ans lorsque de grands maîtres bouddhistes annoncent à ses parents que leur enfant est un tulku, c'est-à-dire la réincarnation d'un maître vénéré disparu depuis peu. À cet instant, son destin change. De l'enfant qu'il était dans l'Himalaya indien jusqu'au jeune homme qu'il est aujourd'hui, Kalo Rinpoche a fait un long et difficile chemin.
I ask myself many, many times, am I really him? And then, what am I capable of?
En 1992, lors d'une cérémonie au monastère de Sonada, le Dalai Lama a coupé la dernière mèche de cheveux qui reliait l'enfant au monde laïque.
Giving your whole life, your experience, your time, your energy, your privacy. Kind of not normal for me. The real teacher will get involved with the people and change the society without making a big image of themselves. I start to awake and I start to shake things up. What is so unique about me? There's nothing special. Sometimes I get sick, sometimes I need break, and sometimes I need love. In Call of Duty is very fast. So you just like bam, you know, you just reborn.
Voilà un maître bouddhiste qui joue à Call of Duty. C'est ce qu'il est entre autres possible de voir dans ce film documentaire L'enfance d'un maître, réalisé par Bruno Vienne et Jeanne Mascolo de Philippis. Alors plus sérieusement, la bande-annonce restitue en partie l'atmosphère du film, qui dresse donc le portrait de ce jeune homme de 28 ans, Kalo Rinpoche, reconnu comme la réincarnation du lama. Donc un maître spirituel du même nom. C'est d'ailleurs troublant car si l'on tape son nom sur Google Images, eh bien les photos respectives de ces deux maîtres se retrouvent mêlées, elles apparaissent les unes à côté des autres, en une mosaïque de visages et de couleurs complémentaires. Et le film lui-même mêle des régimes d'images très différents. En fait, il propose une expérience de cinéma plutôt rare, qui est de voir défiler une vie, la vie de Kalo Rinpoche depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui, où il a désormais 28 ans. On voit défiler cette vie car le tournage s'est étalé sur près de 25 ans, donc c'est vraiment un très long projet, un film qui a pris son sens et sa nécessité peu à peu, sur la longueur, au fil des amitiés, des rencontres avec sa famille, et en même temps le film ne prétend pas reconstruire le trajet de Kalo et sa vie dans une vérité continue et objective parce que d'une part il laisse des zones d'ombre, il respecte l'intimité du personnage et puis d'autre part, le montage du film mêle différentes temporalités. On a une ligne principale qui dessine les étapes successives de sa vie, l'enfance, puis la perte coup sur coup de son père et de son maître spirituel Boka Rinpoche, ensuite l'adolescence et la retraite spirituelle, puis l'âge adulte. Et par-dessus cette ligne, cette trame chronologique principale, eh bien, par touches apposées, interviennent des plans du Kalo d'aujourd'hui en contrepoint du récit dans lesquels il livre face caméra sa propre interprétation de ce trajet, c'est les choses qu'il a mis en perspective depuis, la façon dont il conçoit maintenant sa vie, etc. Donc c'est vraiment une forme souple qui est au service de ce personnage et qui permet d'ouvrir des tas de questions plus que de délivrer des réponses fermées, comme l'expliquent les réalisateurs dans l'entretien que nous avons pu mener au cinéma Comédia.
Et puis surtout, bah, on a voulu lui permettre de d'exprimer des choses et puis qu'après voilà, on n'est pas en train d'essayer de tirer non plus forcément une morale ou un bilan de tout ça, au contraire c'est très ouvert parce que on sent bien que lui-même est en train de voilà, c'est juste en train de progresser et que donc ça ouvre, ça permet une réflexion, ça ouvre ça pose des questions, après on peut aller les trouver parce que c'est maintenant on peut s'intéresser à sa personnalité, aller chercher des choses qu'on n'a pas voulu nous exposer comme ça, mais on avait envie de casser effectivement cette espèce d'idéal aussi des robes rouges, voilà, et de montrer à travers lui, voilà, que le cheminement, ce qui se passe réellement aujourd'hui, en tous les cas pour lui, c'est pas forcément dans tous les monastères, dans tous les héritages pareil, mais en tous les cas, c'est des questions qui se posent et il est, on est ici, on est dans
on
ce monde-là.
On est avec un être humain, quoi, et il y a des choses difficiles, des choses à quoi il doit faire face.
Voilà, donc c'est quelqu'un qui a dû traverser des épreuves très difficiles, comme l'explique Bruno Vienne. et ce dès son enfance. L'un des titres envisagés par les réalisateurs était d'ailleurs non pas l'enfance d'un maître, mais l'enfance volée, pour exprimer la lourdeur de cette tâche, la responsabilité qui revient au jeune Tulku de prolonger l'enseignement du maître dont il est la réincarnation. Et lui-même revient là-dessus à plusieurs reprises dans le film. Il n'a pas cessé de se questionner, est-ce que je peux vraiment assumer ça, cet héritage, est-ce que c'est normal de vivre ça en tant qu'enfant? Il dit même que certaines croyances ne devraient pas être inculquées à des enfants, que désormais par exemple il respecte la réincarnation, la croyance envers la réincarnation, tout en gardant au fond de lui des réserves, des doutes. On sent qu'il a encaissé des chocs, qu'il a dû apprendre à faire avec toutes ses responsabilités, et c'est vraiment touchant de se retrouver face à cet être en apprentissage qui est pleinement dans son temps, qui est très lucide, qui a beaucoup d'humour, de dérision. Je crois qu'il nous aide à dépasser les apparences, mais aussi les préjugés qu'on peut concevoir parfois au sujet des communautés religieuses.
Mais ce qui en fait quelqu'un de touchant, c'est que il s'est intégré à l'Occident, et il est très facilement, d'ailleurs, plus facilement que dans ses traditions, je dirais, et que il a pu faire un consensus entre ces deux choses, ces deux courants, et essayer de rassembler autour de. Je pense que ça va être une nouvelle. Il fait partie de la nouvelle génération des enseignants, qui.
Et c'est surtout qu'il a compris.
Qu'il a compris. Oui.
Il a compris que le bouddhisme tibétain, les anciens, les vieux, ils ont compris aussi le bouddhisme tibétain. Il ne peut renaître qu'en Occident, puisque c'est fini en Chine, c'est au Tibet, et que les vieux qui sont restés dans l'Himalaya, ils sont tous en train de disparaître. Donc bien sûr que les maîtres, les grands maîtres, et le Dalai Lama lui-même, c'est lui qui avait envoyé le précédent Kalu Rinpoche en Europe pour justement propager, non pas du prosélytisme, parce qu'ils n'essayent pas de convertir, mais puisqu'il y a un intérêt des Occidentaux depuis les années 60, tous les hippies allaient chercher ça, ils allaient chercher le bouddhisme et essayer de trouver des clés à des questions existentielles qui se posaient et qu'ils n'avaient pas dans leur monde matériel. Cette rencontre, et bien de l'autre côté, il y a eu des bouddhistes tibétains qui étaient, mais véritablement, des détenteurs, c'est pas de la magie ésotérique et tout ça, comme il y a pu y avoir aussi, ou penser, ou le sang pas avec le troisième œil et des choses comme ça. C'est quand même une tradition millénaire, une culture qui est transmise de maître à disciple d'une façon très précise, et que ces maîtres-là puissent continuer à voir dans une nouvelle vague de disciples, qu'ils soient occidentaux ou orientaux, ça ne les dérange pas, qui sont curieux et qui ont envie d'écouter et peut-être même de transmettre. Donc les maîtres avaient cette idée-là, ceux qui sont venus en Occident. Sauf que lui, il est vraiment l'image, puisqu'il a grandi à la fois en France et en Europe et en Inde, il est cette image-là, il a compris ça et il veut être un... Il aurait pu envoyer tout balader, comme il a dit qu'il allait faire à un moment donné. Il est revenu sur ça et il se dit, tiens, ils ont voulu que je sois comme ça, ils ont voulu me former comme ça, ils m'ont presque détruit, parce qu'il le dit. Hein. Et bien non, finalement, je reviens fort de ce que j'ai appris, fort de ce que m'a appris la retraite. Hein, il est clair là-dessus. La retraite a été vraiment pour lui une révélation.
Voilà, ce qu'on comprend grâce au film, c'est qu'au cœur du bouddhisme, il y a la relation entre le maître et le disciple, l'enseignement comme guide de la pratique. C'est comme cela que les choses se transmettent et que les ponts peuvent se faire entre des cultures a priori très différentes, l'Orient et l'Occident, parce que c'est une philosophie très ouverte, qui est exigeante, mais qui en même temps s'en remet au destin et au trajet personnel de ceux qui la pratiquent. Et vis-à-vis de ça, Kalu a une parole troublante de sincérité, une parole que l'on sent à la fois portée par ce qu'on a pu lui enseigner et traversée en même temps de préoccupations et de contradictions très personnelles.
À un moment donné, je me suis dit, oh ben, il nous restitue juste ce qu'il a appris comme ça. Eh ben non. Vers la fin, quand on sent comment il reprend les choses en main, comment il dit qu'il veut être un moine Facebook, il le dit, un moine moderne, et qu'en même temps il a envie de transmettre ce qu'il a appris, c'est vraiment, enfin pour moi, qui ne suis pourtant pas bouddhiste, enfin officiellement, je le suis de cœur, je trouve que c'est très sincère, et je me dis qu'il a beaucoup encore à faire. Il a que 28 ans, et Bon, il a eu cette crise existentielle de jeunesse qui a duré un bon moment, mais je crois que là, il est parti pour un long tournant.
La dernière interview qu'il a faite, qu'on n'a pas pu mettre dans le film, il disait j'ai été trahi par les gens de ma famille, par des gens autour de moi, par des gens avec qui j'avais fait toute confiance, avec des gens à qui j'ai donné les clés des monastères et tout, un peu partout. J'ai été trahi par tout le monde. J'ai été trahi même par les gens les plus proches de moi dans ma famille. Et je me suis dit, un jour, j'étais triste pour ça. Je me suis mis à pleurer, je les ai appelés dans mon inconscient. Et puis petit à petit, je leur ai pardonné. Et j'ai envie de leur donner encore plus d'amour maintenant parce que je comprends.
Voilà, il comprend. Il endure, mais il comprend. Et c'est très beau d'observer au fil du film les yeux du personnage, les yeux de Kalou, de le voir changer de regard et d'expression aux différents âges de sa vie. Dans son enfance, un regard très vif, très souriant, puis plus grave et plus distant lorsqu'il grandit. Et aujourd'hui, un regard plus direct, plus profond, mais aussi plus ambigu. Pour finir, il faut dire que le film, malgré ses parts sombres, malgré les différentes épreuves que Kalou Rinpoche a dû affronter, ouvre sur une part plus lumineuse et une conception de la spiritualité qui sonne comme très moderne et très bénéfique, peut-être dans un monde où l'on a tendance à penser que la croyance est condamnée, que la croyance emprunte soit le chemin de la disparition, soit le chemin des fanatiques. Le film montre qu'un autre rapport à la vie spirituelle est possible, qu'il est possible de concilier à la fois une envie d'être au monde, une vie de jeune homme qui prend du bon temps, qui s'occupe d'une page Facebook, qui fait du sport, qui joue aux jeux vidéo, et qui se trouve être en même temps le responsable spirituel d'une communauté de croyants immense et toujours plus diverse et mouvante que les deux réalisateurs du film ont côtoyé de près. Donc pour finir, écoutons-les nous parler de la communauté tibétaine, les croyants tibétains et de la force intérieure qui les anime malgré les crises historiques et politiques.
C'est fort, et je crois que cette force-là, qu'est-ce qui l'illustre bien ? Ben, c'est que les Tibétains, parce que quand même il y a 100 000 réfugiés tibétains, mais il y a entre 4 et 5 millions de Tibétains qui vivent quand même sous le joug chinois. Bon, on en est à presque 140 immolations. Il y en a un peu moins maintenant parce que les Chinois ont tellement mis la pression partout. Mais le peuple tibétain, il continue à vivre parce qu'il a cette force intérieure. Et il y a plein de Tibétains, j'ai rencontré des cinéastes tibétains qui font des choses au Tibet, qui vivent malgré tout au Tibet. Et je pense que c'est lié à ce qu'inculque cette force qui va au-dessus. Nous, quand on est allé filmer la première fois au Tibet et qu'on a vu tous ces gens pleurer parce que Bruno filmait le retour d'un moine tibétain qui vivait en France et qui venait d'avoir le droit de revenir dans son monastère.
Après, mais
on a vu des centaines de gens, des dames, des vieilles pommes toutes flétries qui étaient là, qui pleuraient, mais toutes les larmes de leur corps, les enfants qui étaient comme de voir leur grand-mère pleurer, et tout le monde pleurait parce que le lama rentrait. Mais on s'est dit, c'est incroyable. Et il nous ressortait tout, et il nous racontait tout.
Et le monastère avait été détruit trois fois,
il avait été reconstruit. Et c'était incroyable. Ouais. Incroyable. Et là, on s'est dit que ça mourrait jamais. Et les Chinois essayent de le faire, comme ils font avec les Ouïghours. D'ailleurs, actuellement, on a entendu parler là, du Xinjiang ces derniers temps, et ils ont un peu relâché la chape sur les Tibétains, parce qu'ils s'occupent des Ouïghours. Mais les Tibétains, ils ont pour eux cette force-là intérieure.
Et on se retrouve enfin, comme chaque semaine, pour quelques conseils de sortie au cinéma pour vous. Et le film sorti cette semaine, donc, qu'on vous conseille, ça s'appelle Diamantino. Et c'est un film réalisé par Gabriel Abrantes et Daniel Schmitt. Et on se penche sur le magnifique, candide et attachant Diamantino, icône planétaire du football, héros flamboyant touché par la grâce quand, soudain, en pleine Coupe du Monde, son génie s'envole et sa carrière est stoppée net. La star déchue, devenue objet de risée nationale, découvre alors le monde et les autres. Et le voilà embarqué dans maintes péripéties qui se mutent en odyssée, conspiration familiale, manipulation génétique délirante, crise des réfugiés, complotisme, extrême droite. Un film qui semble complètement délirant. Je vous recommande sa truculente bande-annonce qui laisse présager un moment de cinéma tout à fait exceptionnel.
Messieurs, dames, deux minutes d'attention s'il vous plaît. Je voudrais vous parler des Diamantino. C'est un film sur ma vie et plein de gens l'aiment déjà. Il a même remporté un grand prix au Festival de Cannes. C'est bien, non? Diamantino, c'est moi.
Pas mal, hein?
On m'appelait le Michel-Ange du terrain. Quand j'y jouais, il se passait des choses assez folles. Mais un jour, j'ai eu cette vision.
Qu'est-ce que c'est, juste?
Son réfugiage.
Et du côté des événements au cinéma, événement incontournable cette semaine, c'est vendredi soir, ce vendredi 30 novembre à 21h à l'Institut Lumière. Dans le cycle Les séries des cinéastes présenté par Fabrice Calzettoni, vous pourrez découvrir, redécouvrir, redécouvrir le pilote original de Twin Peaks saison 1, donc ce numéro 0 découvert en 1990 par les téléspectateurs qui découvrent donc le génie de David Lynch dans cette série extraordinaire, véritable enchantement pour les yeux. À redécouvrir sur grand écran, nous annonce l'Institut Lumière. Et effectivement, c'est vraiment un moment à ne pas manquer. Ça sera donc vendredi soir.
She's dead, wrapped in plastic.
Good Lord, Laura.
Laura Palmer.
Was it seduction or illusion? Deception or murder? Nothing is what it seems.
Diane, 11:30 a.m., February 24th.
In a town like Twin Peaks.
À redécouvrir cette semaine, eh bien, comment ne pas parler encore et toujours de la rétrospective Hitchcock, également à l'Institut Lumière, et ce jusqu'au début de l'année prochaine. Et ce samedi, à 16h30, sera projeté une première fois The Ring, donc d'Hitchcock, où Jack, un boxeur de foire, pardon, est remarqué par Bob Corby, champion de boxe. Ce dernier, tout en donnant sa chance à Jack de faire carrière, va séduire sa fiancée, et plus Jack gagne des matchs, s'enrichit, plus sa femme s'éloigne de lui. L'occasion de redécouvrir un film un peu méconnu d'Hitchcock, mais surtout l'un de ses films muets. Film muet qui constitue la partie un petit peu plus confidentielle de la filmographie d'Hitchcock. Et c'est donc un certain nombre de ces muets que vous pourrez voir tout au long de cette rétrospective. Celui-ci, le premier, sera donc pour ce samedi à 16h30. Et enfin, faute de bande-annonce à pouvoir vous faire écouter, c'est le muet, je me tourne tout de suite vers Flavien Poncet, des Cinémas Lumière, qui nous livre son conseil de la semaine.
Le conseil du jour, c'est Les Confins du Monde, qui est un film français de Guillaume Niclou, qui avait fait entre autres Valley of Love, avec Isabelle Huppert et Gérard Depardieu. Les Confins du Monde, ça sort le 5 décembre en salle. C'est un film qui est clairement entre Apocalypse Now et Indochine. Voilà, c'est une véritable expérience mentale aux accents verniens. C'est une véritable aventure avec un élan profond, un élan romanesque. C'est un des rares films de guerre. Il y a beaucoup de films de guerre qui existent, mais il y en a très peu français, très peu de qualité. Un des plus grands films de guerre, ça se passe en France, c'est Les Sentiers de la Gloire, mais c'est réalisé par Stanley Kubrick. Des films de guerre français réussis de qualité avec ce sentiment de sentir l'air, de ressentir l'atmosphère, d'être avec les personnages, de souffrir avec eux, d'être dans leur aventure. C'est extrêmement rare et c'est ce que réussit à merveille Les Confins du Monde. Voilà, c'est un film vénéneux, opiacé, qui est porté par, bien sûr, la réalisation extrêmement inspirée de Guillaume Niclou, mais également ses interprètes, Gérard Depardieu, qui fait une petite apparition, mais surtout Gaspard Ulliel et Guillaume Gouix, avec une révélation du film, qui est le personnage féminin principal, qui est Lang Cutran. Voilà, Les Confins du Monde, ça sort le 5 décembre, et c'est une excellente nouvelle pour le cinéma de genre français.
Le deuil est une drôle d'épreuve. Un jour, on croit en être sorti, et puis non. Il est toujours là, incrusté avec sa colère.
Et mon frère aussi, lui, a coupé la tête.
D'une certaine façon, on est de la même famille. Des rescapés.
Tu diras à Bobine que mon nom, c'est Robert Tassen et que je le lâcherai pas.
Sachez qu'il y a des ennemis contre lesquels on ne peut pas lutter. Je parle de vous.
Voilà, avant de se quitter, je mentionne également la douleur d'Emmanuel Finkiel, à qui nous avions accordé 4 étoiles largement méritées l'an dernier, qui sera projeté ce jeudi soir à 18h30 dans le cadre du Club de la Fourmi, un film à voir si vous n'avez pas eu la chance de voir cette extraordinaire prestation de Mélanie Thierry, et puis également Les âmes mortes dont nous avions parlé dans un récent coup de projecteur, qui sera projeté au cours des prochaines semaines au cinéma Le Zola à Villeurbanne, un très grand documentaire dans tous les sens du terme, à voir également. Ça passe donc, le premier volet passe donc cette semaine au Zola.
Ok, soldier, I'm coming out. Ok, soldier, I got no gun and I'm coming out. Soldier.
D'étoiles plein les yeux, c'est donc terminé pour ce 106e numéro. Cette semaine, vous écoutiez Rémi Cerda, Eli Rofast, Mathilde Grasset et Maë Burla, avec donc un coup de projecteur d'Eli Rofast qui a été réalisé avec la collaboration de Rhône-Alpes Cinéma et du cinéma Le Comédia, qu'on remercie ici chaleureusement, ainsi que nos partenaires des Cinémas Lumière qui nous livrent leurs conseils chaque semaine. Et puis on se retrouve bien sûr la semaine prochaine sur Transistor. Et d'ici là, bonne semaine à toutes et à tous dans les salles obscures.
I want you to come down.